Lizzie présente Néo, livre 2, Les deux châteaux, de Michel Bussy, lu par Damien Viteka. À Malou. Saison 1, l'été. Chapitre 1, le camp de la sorcière. Les 30 soldats continuaient de progresser dans l'obscurité en rampant parmi les sapins. Les épines éparpillées dans le sable leur piquaient les mains. Aucun n'avait pensé à prendre de gants. Ils s'en fichaient, serrant chacun son beau entre ses poings. Ils étaient entraînés à ne pas se plaindre à la première égratignure, même s'ils enviaient les archers restés debout derrière eux, à l'abri des troncs, flèches pointées en direction de la vingtaine de cabanes dont on voyait les toits de bois briller sous la lumière des torches. Hakan fut l'un des premiers à atteindre la lisière du désert. Il épousta d'un revers de main les quelques épines restées collées à son bras ou ses cuisses. Pas de danger qu'elles le blessent, il avait la peau trop dure pour cela. Depuis un an, il avait encore grandi et forci. À 14 ans, même s'il n'aurait 14 ans comme tous les autres qu'à minuit, il mesurait près d'1m80 et dépassait de loin n'importe quel autre ado du château. Même Jean d'Arc, le soldat qui dirigeait le commando et qui avait pris lui aussi 10 bons centimètres en 12 mois. La troupe s'arrêta, invisible, sous l'ombre des derniers arbres. Elle était composée d'autant de garçons que de filles, mais surtout d'autant de soldats du château que du tipi. Depuis la fin de la trêve, presque tous les enfants du tipi avaient accepté de suivre des cours, et la plupart avaient choisi d'intégrer le pavillon des soldats. Au point qu'on avait dû organiser des sélections et refuser les candidats les moins doués pour la course, le saut, le maniement du bow, et avant tout, les moins capables d'obéir sans discuter à une autorité. Un grand feu au centre du camp éclairait la vingtaine de cabanes. La pleine lune au-dessus du désert colorait le sable d'un reflet orangé, comme si chaque grain avait été peint. Hakan, toujours tapi dans la pénombre, reconnut dans les rangs des soldats le chapeau de Wayne, les franges de la veste indienne de Cheyenne, les lunettes noires relevées sur le front d'Elios. Novak se tenait en retrait, commandant la dizaine d'archers, tous en position de tir. Devant eux, le camp était silencieux. Ils n'avaient plus que quelques minutes à attendre. L'attaque serait lancée au premier dong annonçant le début du birthday. Si loin du château, ils n'entendraient pas la cloche du sanctuaire, mais Mook, posté derrière les archers, frapperait son tambour dès que le ciel s'illuminerait. Le feu d'artifice serait tiré du dernier étage du tipi pour qu'on l'aperçoive jusqu'à des kilomètres de Paris. Pour l'instant, tout était calme. Le village de la sorcière semblait presque vide. Sans doute la majorité des occupants l'avait-il abandonné pour quelques heures, le temps de s'installer sur la plus grande dune et d'admirer le spectacle du ciel éclairé. Aucun ado, même s'il avait rejoint le camp de Bill et Mordelia, ne pouvait rester insensible à cette cérémonie d'anniversaire. C'était leur plus beau et leur plus ancien souvenir, du temps où le soleil de fer veillait encore sur eux et illuminait la ville de ses éclairs. Quand le conseil avait voté l'expédition contre le camp de Mordelia, le choix de la meilleure date pour l'attaque avait été discuté, et le soir du birthday s'était imposé comme une évidence pour bénéficier de l'effet de surprise. « Il y aura ainsi le moins de victimes possible », avait affirmé le conseiller Ogénor pour convaincre les plus modérés. « Le moins de victimes possible », répéta Hakan dans sa tête. Quelques rares ombres qu'il peinait à reconnaître traînaient entre les cabanes. Dans moins d'un quart d'heure, le camp serait pris d'assaut par 30 soldats. Qu'en resterait-il ensuite ? Hakan découvrait pour la première fois ce repère que tout le monde au château appelait le camp de la sorcière. Il était impressionné par le travail accompli par Mordelia et Bill en un an. ce refuge aurait pu tout aussi bien être nommé le ranch de la sorcière, ou la ferme, le moulin, l'oasis. Selon les savants, ce lieu choisi par Mordelia s'appelait la mer de sable. Une curiosité géologique aux portes de Paris, un petit désert de sable caché au milieu d'une vaste forêt. Le camp était organisé en différents cercles, parfaitement identifiables malgré la faible luminosité. Mordelia avait dû en dessiner le plan avec précision. Le cercle le plus large était constitué d'un enclos de bois où des animaux mi-domestiqués, mi-sauvages cohabitaient. Cochons, sangliers, biches, veaux, chèvres, moutons. Au milieu, une vingtaine de cabanes étaient posées sur le sable, toutes taillées dans les pins alentour. Un vaste espace central s'ouvrait entre les cabanes, occupé par le feu, un puits, un four de pierre et une éolienne perchée sur trois poutres disposées en trépied. Elle devait fournir de l'électricité les jours de vent, à en croire les fils qui pendaient de l'édifice. Hakan trouvait l'agencement du camp incroyablement ingénieux. Certes, il avait appris depuis un an, en fréquentant les savants et en supervisant les travaux de modernisation du tipi, ce qu'était l'électricité et comment on la produisait avec du vent, de l'eau ou à la force des bras et des jambes. Mais il aurait été bien incapable de construire une dynamo, une turbine ou même simplement de tresser un fil conducteur. Mordelia, elle, en avait été capable, seule ou presque. Jeanne d'Arc, comme les autres soldats, guettait le ciel, impatient que soit tirée la première fusée du Birthday et que sifflent les premières flèches. Seul ou presque, continuait de penser Hakan. Il y a un an, après la bataille de la cour carrée, Bill, dans son ridicule costume de tigre, avait été le seul à suivre Mordelia. Pendant de longues semaines, aucun enfant n'avait eu de nouvelles d'eux, ni au château, ni au tipi. Puis, petit à petit, la rumeur avait enflé. Mordelia n'était pas partie. Elle habitait tout près de la ville, au milieu de la forêt. Elle construisait un nouveau village pour accueillir tous ceux qui le voudraient. Par exemple, les ados du tipi, qui n'avaient pas envie d'être commandés par un chef incapable de se battre, ou par un garçon inconnu cloué dans un fauteuil roulant, ou encore par une reine portant des roses sur la tête. En résumé, elle était prête à offrir l'hospitalité à tous ceux qui ne voulaient pas finir enfermés sous une pyramide de verre et qui avaient compris qu'ils ne seraient jamais traités comme les égaux de ceux du château. Tous ceux aussi qui croyaient encore à la magie de Mordelia. Et ils étaient nombreux. Alors, un par un, certains ados l'avaient rejointe. Certains avaient fui après une dispute, parce qu'ils n'avaient pas supporté une punition votée par le conseil. Ils avaient préféré retrouver Mordelia dans la forêt plutôt que de passer quelques jours dans la prison de la conciergerie. D'autres étaient tombés malades, un simple nez qui coule ou un mal de ventre, et comme ils ne croyaient pas aux discours compliqués des savants, toutes ces histoires de microbes invisibles ou de médecine par les plantes, ils s'étaient souvenus que Mordelia, sans un mot de trop, avait toujours été capable de les guérir avec ses pilules miraculeuses. Plusieurs enfants du château avaient eux aussi décidé de tenter l'aventure, attirés par le mystère entourant la sorcière. Abou, le musicien, Flabelle, la spécialiste des herbes et des champignons, Fanfan la savante, passionnée de sciences occultes. Augénor avait trouvé un nom pour désigner ceux qui quittaient le tipi et le château pour rejoindre le camp de Mordelia, les moineaux. Il l'avait choisi parce que ses ados s'envolaient, bien sûr, et aussi parce qu'ils étaient souvent les plus faibles, les plus fragiles. Mais ce nom rappelait surtout que, quand on les croisait dans les rues de Paris, ces moineaux étaient tous vêtus de gris, comme des petits moines. Ils volaient pour leur survie, ramassant tout ce qu'ils trouvaient, fruits, bois, fer, verre, puis filaient l'offrir à Mordelia au centre du camp, au pied de son totem. Hakan plissa les yeux pour mieux distinguer, dans les ombres dansantes du feu, les détails du plus grand monument planté dans le camp, une statue de femme de plus de 10 mètres, qui s'élevait bien plus haut dans le ciel que l'éolienne. Elle rappelait à Hakan la statue de la liberté, sur l'île aux cygnes, devant le tipi. Akane avait du mal à repérer si le visage sculpté dans le bois ressemblait à celui de Mordelia. Il reconnaissait en revanche parfaitement les autres symboles. Le bras levé, hissant le plus haut possible une longue vue, alors que trois livres étaient coincés sous son bras gauche. Qui avait sculpté cette œuvre gigantesque? Mordelia? Bill? Tous les moineaux? Nul doute, en tout cas, qu'elle devait impressionner les esprits les plus influençables, comme si les trois livres portés par Mordelia contenaient toute la connaissance du monde, et que la longue vue symbolisait sa capacité de tout voir, partout, toujours. Mordelia était crainte et vénérée. Une déesse, prétendaient ses fidèles. Une sorcière, disait-on au conseil. Les discussions avaient été longues. Le conseil avait longtemps considéré que Mordelia ne représentait aucun danger. Au total, à peine une vingtaine de moineaux l'avaient rejointe, dont moins d'une demi-douzaine d'enfants du château. Et après tout, c'était son droit le plus strict de vivre en marge des autres, tant qu'elle cohabitait en paix. « Quelle hypocrisie !» avaient pesté Jeanne d'Arc et la plupart des soldats. « Cohabiter en paix ?» Depuis le début, personne n'y croyait. Tous savaient que Mordelia n'avait qu'une envie, se venger, et que plus on attendrait avant d'intervenir, plus il serait difficile de mettre fin à la nouvelle armée qu'elle rassemblait, ou, pire, à la nouvelle religion qu'elle créait, entourée de ses partisans. Akane observa à nouveau l'ombre des flammes du bûcher courir sur le totem. Une semaine plus tôt, le conseil avait tranché. Ils interviendraient le soir du birthday, quand Mordelia, Bill et les moineaux auraient les yeux levés. Le chef du tipi entendait les soldats allongés dans la pinède s'impatienter. Ils devaient en avoir assez de sentir leur peau labourée par les épines, que le sable leur chatouille le nez, que les cendres du feu et des torches plantées devant les cabanes leur piquent les yeux. Le vent se levait et soufflait vers eux. Si on ne lançait pas l'assaut bientôt, l'un d'eux éternuerait. Peut-être Gulo Gulo, qui ne cessait de s'agiter derrière Cheyenne. Il avait encore pris du poids depuis un an, et, même s'il restait un bon chasseur, il avait du mal à tenir le rythme de l'entraînement de fer des soldats. Derrière eux, les archers de Novak risquaient d'avoir des crampes à force de se tenir adossés au tronc, un bras plié, l'autre tendu. La mission confiée au commando dirigé par Jeanne d'Arc était claire. Alix y avait mis toute son autorité de reine. Pas de victimes, pas de violence, aucune dégradation. Les soldats devaient se contenter d'une démonstration de force. L'objectif consistait à effrayer suffisamment les moineaux pour les faire revenir au nid, c'est-à-dire au château ou au tipi. Un premier avertissement, en quelque sorte. Lorsque la première fusée du birthday serait lancée du dernier étage du tipi, Akane leva plus haut encore les yeux. Le dernier étage du tipi. Il avait partagé cette minuscule plateforme de fer pendant des années avec Mordelia. Elle avait été sa conseillère. Elle avait toujours tout anticipé avant les autres enfants de leur clan. Sans elle, sans ses dons visionnaires, aurait-il survécu aux famines, aux tempêtes, aux pires hivers? Il l'avait vu se dévouer des nuits entières pour soigner Pépin ou Suzy ou tant d'autres malades grâce à son livre à la Croix Verte. Mais au fur et à mesure qu'il grandissait, il avait aussi découvert à quel point Mordelia était obsédée par sa haine contre ceux du château, à quel point elle était prisonnière de son deuxième livre, celui de la guerre. Restait le troisième livre, celui que personne n'avait jamais vu. Était-ce celui qui expliquait le comportement incontrôlable de Mordelia? De quoi serait-elle capable quand elle verrait les soldats de Jeanne d'Arc encercler son camp? Akane avait donné son accord pour l'opération commando, mais il avait tenu à être présent. Personne ne connaissait Mordelia mieux que lui. Il devrait veiller à ce que l'assaut ne tourne pas au carnage comme lors de la bataille de la cour carrée. C'était son rôle, éviter un nouveau massacre. Il avait laissé à Jeanne d'Arc le titre de ministre des punitions et avait été élu par l'ensemble des ados des deux tribus secrétaire général de la paix. Depuis un an, Akane avait beaucoup lu, beaucoup appris écoutait bien des cours de Marie-Lune. Il aimait sa philosophie, sa sagesse. Et même s'il était le plus fort de tous les ados du château et du tipi réunis, sa plus grande force résidait dans sa capacité à éviter autant qu'il le pourrait toute forme de violence. La première fusée explosa dans le ciel. En écho, avec une synchronisation parfaite, Mook frappa son tambour. C'était le signal. Jeanne d'Arc abaissa son bras. Aussitôt, une trentaine de soldats se précipitèrent dans la plaine de sable, beau en avant. Plusieurs d'entre eux ne prirent pas le temps de contourner les enclos qui entouraient le camp. Wayne et Helios escaladèrent les palissades et se mirent à courir au milieu des moutons et des chèvres affolés. Cheyenne, la plus rapide des soldats, eut le réflexe d'ouvrir la barrière du plus grand parc pour faciliter l'accès aux assaillants qui la suivaient. Les cochons, sangliers et veaux détalèrent dans le camp, renversant tout sur leur passage, paniqués par les cris des envahisseurs, le ciel qui s'embrasait et le tambour de Mook. Quelques chiens surgirent des cabanes et tentèrent désespérément de rassembler le troupeau qui se dispersait déjà dans la forêt. « Des chiens de berger », comprit Akan. Il admira une nouvelle fois le talent de Mordelia. Jamais, au tipi, il n'était parvenu à domestiquer des chiens sauvages. Un instant, il espéra que tout s'arrêterait là, que l'assaut se limiterait à quelques animaux égarés, quelques barrières cassées, des plantations piétinées, des tables et des bancs renversés, juste assez pour impressionner les moineaux. Les soldats se déployaient dans le camp sans ménagement. Un premier ado sortit d'une cabane, tétanisé. Akan reconnut Pépin. Après tout, c'était l'effet recherché, effrayer suffisamment les partisans de Mordelia pour qu'ils reviennent au château et au tipi, prendre possession de la place pendant qu'ils admiraient le feu d'artifice sur la plus haute dune, derrière la crête plantée de pins, leur laissant le camp désert comme le conseil l'avait prévu. L'instant suivant, pourtant, tous les moineaux sortirent de leur abri, paniqués. Ils étaient une vingtaine. Le conseil s'était trompé. Ils ne préparaient aucune fête d'anniversaire, peut-être parce que Mordelia le leur avait interdit. Tous se trouvaient dans leur cabane, et sans doute dormaient-ils déjà. Réveillés par le vacarme, le tambour, les cris d'animaux, ils émergeaient, un à un, mal coiffés, à peine habillés, les yeux écarquillés. Akan reconnut Pépin, Noam, Auriel. Aucun d'eux ne semblait avoir envie de se battre, et d'ailleurs, s'ils l'avaient voulu, il n'aurait pas fait le poids. Mordelia rassemblait autour d'elle les plus chétifs et les plus craintifs de tous les ados, ceux incapables de manier un bow. Ils se serraient les uns contre les autres, au centre du village, près du grand feu qui brûlait entre le puits et le four, tremblant. Le vent soufflait un peu plus maintenant, soulevant la poussière de sable remuée par les pieds, les griffes et les sabots. Au signal de Jeanne d'Arc, les soldats entrèrent dans les cabanes. Ils avaient ordre de confisquer les armes qu'ils trouveraient, ainsi que tous les objets prétendument magiques qui pourraient alimenter une nouvelle religion fondée sur le culte de Mordelia. Par contre, les membres du commando avaient l'interdiction formelle de se livrer au pillage. Les consignes du conseil étaient claires et Akan y veillerait. Toujours aucune trace de Bill, ni de Mordelia. Derrière les soldats qui quadrillaient le camp, les archers de Novak avançaient, mais aucun moineau ne manifestait la moindre hostilité. « Ceux-là ne seront pas difficiles à ramener au nid », pensa Akan. Quatre spots blancs s'allumèrent soudain. Akan imagina que le vent naissant avait fait tourner les pales de l'éolienne et activé l'installation électrique du camp. Éclairé comme par magie par les projecteurs, le totem de bois surgit dans la nuit. Beau et effrayant. Le visage de la sorcière, haute de 10 mètres, ressemblait de façon frappante à celui de Mordelia. Elle les défiait de tout son pouvoir maléfique.
« Brûlez-moi ça !» ordonna simplement Jeanne d'Arc.
En 4 coups de beau, il explosa les ampoules, et le totem ne fut plus qu'une forme sombre vaguement éclairée par la lune et les éclairs lointains. Le chef du commando fit signe à Django et Idriss, 2 soldats forts comme 2 ânes, de faire tomber la statue. Akan voulut s'interposer. Pas le totem. Le conseil avait recommandé de ne se livrer à aucune destruction dans le camp, mais déjà la haute statue de bois mal plantée dans le sable basculait.
Il observa, incapable de réagir, la longue vue sculptée et les trois livres coincés sous le bras de bois s'écraser dans un nuage de poussière. Une partie de son cerveau, celle de la raison, comprenait les ordres de Jean d'Arc. Ce totem était le symbole du délire de Mordelia. Son ancienne conseillère souffrait d'un trouble de la personnalité, et cette dernière année, où elle avait été bannie par tous, n'avait rien arrangé. Mais l'autre partie de son cerveau, celle de l'émotion, conservait de l'affection pour son ami d'enfance, pour son intelligence hors du commun, pour ce mélange étrange de volonté et de fragilité. Déjà, Django et Idris, aidés de Wayne et Cheyenne, il fallait bien se mettre à quatre pour soulever le totem, jetaient la statue de bois dans le bûcher. Aucun des moineaux n'avait réagi. Ils regardaient les flammes grandir et dévorer la bûche géante, les yeux rougis, comme si, petit à petit, ils se libéraient d'un enchantement, d'un maléfice que la sorcière leur aurait jeté. Certains même souriaient. Un cri de terreur monta d'une des cabanes que les soldats n'avaient pas encore eu le temps de fouiller. Le tambour de Mook se tut. Une fusée rouge creva le ciel. Bill venait de surgir, entièrement vêtu d'un costume de plumes blanches et noires qui lui donnait une allure de rapace. Ses bras étaient pris dans une cape si large qu'on aurait pu le croire capable de s'envoler. Mais non, il courait vers le bûcher. Au bout de ses doigts luisaient des griffes acérées, sans doute récupérées sur un cadavre de buse ou de faucon. Il renversa Helios et Gulo-Gulo, les deux premiers soldats qui se trouvaient sur son passage, leur lacérant les bras et le visage. Aussitôt, Django et Idris tentèrent de s'interposer, mais ils furent eux aussi renversés par le taureau à plumes. Bill se pencha sur les flammes du bûcher, sans paraître ressentir la moindre douleur, pour tenter d'extraire le totem noirci. Il agitait ses griffes pour empêcher quiconque d'approcher, tout en essayant d'éteindre la bûche gigantesque du bout du pied, protégée d'une maigre sandalette de cuir qui fumait.
« Vous n'avez pas le droit !»
hurlait Bill.
« Maudit ! Maudit ! Vous serez tous maudits !»
Aucun des moineaux n'esquissait le moindre geste pour l'aider. Toutes les flèches des archers de Novak étaient pointées sur Bill. Tout alla très vite alors. L'une des branches enflammées du bûcher, poussée par la semelle de Bill, roula jusqu'à l'un des bancs renversés. Le feu se propagea sans que Bill se méfie. Sa cape prit feu. Il hurla, se mit à courir, lâchant dans son sillage des plumes enflammées qui, à leur tour, incendiaient chaque objet de paille, de tissu ou de bois. Akan comprit qu'en quelques minutes, le campement entier allait prendre feu. Déjà, les soldats reculaient. Akan, au contraire, sprinta droit devant. Dans sa course, il arracha son épaisse tunique de laine, traversa le brasier et se jeta sur Bill. Il le plaqua au sol, étouffant son plumage de feu sous sa couverture improvisée. La peau noire de l'ado avait été mordue par les flammes. Quelques brûlures superficielles sur son torse, son cou et ses bras qu'il calma en s'aspergeant de sable. Autour d'eux, le camp était en feu. Jean d'Arc donnait l'ordre aux moineaux d'évacuer. Dans quelques minutes, il ne resterait rien du camp de la sorcière. Quelques dernières fusées éclataient dans le ciel, au loin. Le tambour de Mook avait depuis longtemps frappé ses 12 coups. Le birthday aurait dû être une fête partout sur Terre, celle de leurs 14 ans, du début de leur adolescence. Mais c'était un incendie, une folie qui marquait la fin de leur enfance. Et toujours aucune trace de Mordelia. Coincé sous le poids d'Akan, Bill continuait de se débattre.
« Lâche-moi ! Tu nous as vendus à ceux du château ! Maintenant tu reviens avec eux nous achever !»
Ses doigts de griffe se plantaient autant qu'il le pouvait dans les muscles tendus d'Akan. De simples éraflures. L'ado géant ne cédait pas. Il avait plaqué Bill au sol, au centre du village, à l'endroit précis où le totem avait été érigé et où il ne restait plus qu'un trou entouré par 4 ampoules crevées. Les flammes qui dévoraient les cabanes étaient suffisamment éloignées pour ne pas les toucher, mais la chaleur était suffocante. Il ne tiendrait pas longtemps. Tous les autres soldats avaient reculé. « Comment être certain ?» se demandait Akan. que s'il libérait Bill, ce taureau à la cape d'oiseau n'irait pas à nouveau se jeter dans les flammes pour tenter de sauver les restes carbonisés du totem. Il ne pouvait pourtant pas rester éternellement si près du brasier.
« Lâche-moi !»
continuait de crier Bill.
« Lâche-moi ! Je dois la sauver !»
Surpris, Akan desserra son étreinte. Bill, toujours coincé dans l'étau des muscles du géant, parvint à relever la tête. Il fixa, hébété, la cabane la plus proche du totem. Si l'on y prêtait attention, elle était un peu différente des autres. Son toit était plus pointu, formant presque un petit clocher, et sa façade était plus soignée, décorée d'une porte voûtée entre deux poutres de bois sculpté. Immédiatement, Akan comprit. Cette cabane, au centre de toutes les autres, était celle de la chef du camp. Elle était le temple de la prêtresse, le repère de la sorcière, le refuge de Mordelia. Dévorée, comme les autres cabanes, par les flammes. Impossible qu'elle soit encore à l'intérieur, se dit Akan, tous les sens en alerte. Impossible qu'elle se laisse asphyxier par la fumée. Impossible qu'elle se laisse brûler vive. Pourtant, Bill continuait de s'agiter sous lui, le regard fou, braqué sur la cabane, tel un chien attaché qui devine que sans son aide, son maître va mourir. « Je dois reculer », raisonna Akan à toute vitesse, quitte à assommer Bill et à le tirer de toutes mes forces vers la forêt. Les soldats n'étaient plus que des ombres autour d'eux. Quelques silhouettes fantomatiques de chiens, de biches ou de chèvres se détachaient parfois sur les dunes les plus hautes, zébrées par les dernières fusées tirées loin, très loin du quatrième étage du tipi. Elle apparut alors au milieu des flammes. Mordelia. Elle était entièrement vêtue de noir, à l'exception de ses étranges cheveux blancs libérés et tombant sur ses épaules. Une sorcière. Elle se tenait debout devant la porte de la cabane en feu, serrant fermement sa longue vue dans une main et une lance de fer et d'ivoire dans l'autre, pour interdire jusqu'au bout à quiconque d'entrer dans son temple. C'est suicidaire, pensa Akan en regardant l'épais nuage de fumée envelopper la silhouette fantomatique de Mordelia. Suicidaire et ridicule. Sa cabane était dévorée par les flammes. Qui aurait pu être assez dingue pour y entrer? Quel trésor caché à l'intérieur voulait-elle protéger puisque tout allait brûler? Le clocher du toit et les deux poutres soutenant la façade pouvaient à chaque seconde céder et l'écraser. Mordelia, indifférente au danger, au feu et à la fumée, observait d'un lent regard panoramique la scène devant elle. Elle paraissait sortir d'une longue méditation et découvrait l'ampleur du désastre, son camp en flammes, son totem déraciné et brûlé, les soldats accrochés à leurs baux, 20 moineaux apeurés derrière eux, les archers, les enclos dévastés, les chiens aboyant après des animaux bêlants et grognants. Une apocalypse. L'apocalypse de son nouveau monde. Alors, le regard de Mordelia s'arrêta sur Akan, longuement. C'était la première fois qu'il se revoyait, depuis un an, depuis la bataille de la cour carrée. Curieusement, Akan ne lut aucune haine dans les yeux de son ancienne conseillère, ni aucune colère, seulement du mépris. Il eut un instant l'impression d'être un enfant à qui elle avait fait confiance et qui l'avait déçu. Elle paraissait simplement peinée pour lui, désolée qu'il ait fait le mauvais choix. Un craquement déchira le silence. Une poutre du toit céda juste au-dessus de Mordelia. Elle ne bougea pas.
« Non !»
cria Bill en tentant avec l'énergie du désespoir de se libérer. Cette fois, Akan n'eut ni la force ni le courage de le retenir. Dès que le géant ouvrit ses deux bras, Bill se précipita, fonça sans réfléchir, droit vers la cabane en flammes. Mordelia n'avait toujours pas bougé, mais son corps de statue, petit à petit, fondait. La fumée l'asphyxiait, ses jambes pliaient, sa main droite s'ouvrit et lâcha sa lance de fer alors que sa gauche s'accrochait encore à la longue vue. Devant elle, une autre poutre de feu tomba. La dernière, celle qui retenait encore tout l'édifice, se courbait déjà. D'une seconde à l'autre, elle allait se briser, tout allait s'écrouler. Bill souleva Mordelia sans presque ralentir sa course. En un an, la sorcière n'avait quasiment pas grandi. Elle était restée une petite adolescente fluette, une plume, que Bill portait sans difficulté apparente avant de courir dans le sable, au milieu du brasier qui perdait déjà en intensité, vers la forêt opposée. Sans doute, Akan aurait pu courir vers eux et les rattraper. Sans doute, Jeanne d'Arc aurait pu donner l'ordre à ses soldats les plus rapides de la capturer. Novak aurait pu donner l'ordre à ses archers de les abattre. Certains moineaux auraient pu s'échapper et les rejoindre. Pourtant, aucun être vivant dans le camp de la sorcière ne bougea. Pas même un chien. Tous regardèrent la cape de plumes noires de Bill, les longs cheveux blancs de Mordelia disparaître entre les sapins. Puis, plus rien. Le feu s'était éteint de lui-même, ne laissant derrière lui qu'un campement gris uniquement éclairé par la lueur de la pleine lune. Plus aucune fusée ne déchirait le ciel. Seules les flammes du bûcher brûlaient encore, terminant de dévorer le totem. Il ne restait plus de la statue qu'une bûche de charbon noir, sur laquelle il était impossible de reconnaître les traits sculptés du visage de Mordelia, sa longue vue, ou ses trois livres de bois. Toutes les cabanes, même celles qui n'avaient pas été entièrement ravagées par le feu, s'étaient effondrées sur elles-mêmes. Le camp de la sorcière n'était plus qu'un champ de ruines. Les soldats avaient posé leurs baux, leurs arcs, et marchaient dans les cendres, observant les débris fumants. Mordelia, Bill et les moineaux avaient mis un an à construire ce village de bois. Il avait fallu moins de 2 heures pour le détruire. Akan souleva des planches calcinées qui avaient dû former la barrière d'un enclos. Les soldats reviendront en héros au château, songea-t-il. Et même au tipi. Mission accomplie, bien au-delà de ce qu'ils avaient espéré et sans aucune victime à déplorer. Le camp de Mordelia est détruit. Les moineaux ont pu constater que leur sorcière ne possédait aucune magie, aucun pouvoir, qu'elle n'était qu'une ado comme les autres, juste un peu plus cinglée et au look décalé, avec ses longs cheveux blancs décolorés et ses vêtements noirs corbeaux. Plus aucun ado n'aura envie de la rejoindre, à l'exception de Bill, bien entendu. Tous les moineaux rentreront au nid. Akan avança encore dans l'enclos, évitant de marcher dans les excréments d'animaux. Devant lui, d'autres planches s'étaient effondrées, mais avaient été épargnées par les flammes. De quoi étaient-elles les vestiges? D'un ancien poulailler? D'une barrière? D'un clapier? Le calme qui régnait dans le camp ne parvenait pas à rassurer le chef du tipi. Il avait l'impression que tous les soldats, tous les moineaux partageaient le même sentiment, même si la mission était en apparence réussie, n'avait-il pas déclenché quelque chose de plus inquiétant encore? Les mots de Bill flottaient encore dans l'air, « Soyez maudits », ainsi que le terrible silence de Mordelia. Akan en était persuadé, il la connaissait plus que n'importe qui d'autre. Mordelia cherchera à se venger. Il donna un coup de pied rageur dans les planches, et l'instant suivant, il comprit à quoi elles servaient. Il ne s'agissait ni d'un clapier, ni d'un poulailler, mais d'une niche. Akan entendit d'abord de timides aboiements, puis souleva les morceaux de bois et se pencha. Un chiot terrifié le regardait. Il ne devait pas avoir plus de quelques semaines. Coincé sous la petite cabane écroulée, sans doute n'avait-il pas pu s'enfuir avec sa mère et ses frères. Au milieu de sa tête plate, 2 grands yeux, plus beaux encore que ceux des filles qui se maquillaient, le suppliaient. Akan ne put résister et prit dans ses bras la petite boule de poils fripés. Tous les soldats dormaient. Jean d'Arc et Hakan avaient discuté et décidé de passer la nuit sur place, dans le sable. Ils ne rentreraient au château que lorsque le soleil serait levé. Seuls quelques soldats assuraient le guet à tour de rôle. Gulot-Gulot s'était proposé pour prendre la première garde, non pas qu'il ne soit pas fatigué, bien au contraire, sa tête était comme une tomate trop mûre prête à exploser. Il avait participé à l'assaut du camp, mais il avait détesté le voir partir en fumée. Il avait toujours bien aimé Mordelia. Il se souvenait de toutes ces fois où elle avait guéri ses maux de ventre parce qu'il avait mangé des baies et des champignons inconnus dans la forêt. Était-ce sa faute s'il avait toujours faim, comme cette nuit? Il avait donc proposé à Jean d'Arc de veiller en premier. En fouillant, il dénicherait bien de quoi grignoter dans ce désert de cendres. Les moineaux devaient sûrement conserver du pain, des graines ou de la viande. Il cherchait depuis près d'une heure et il ne trouvait rien. De quoi pouvait-il bien se nourrir? S'il n'avait pas rejoint Mordelia, comme Pépin, Noam, Auriel, malgré son envie de retrouver cette liberté dans la forêt, c'est parce qu'on mangeait mieux au château qu'au camp de la sorcière. Et il n'avait pas un appétit de moineau. Il essaya de soulever discrètement des débris dans les décombres fumants, à la recherche de la moindre nourriture. Il regarda avec dégoût le totem qui continuait de se consumer et eut soudain une idée. Mordelia se prenait pour une déesse. Ce totem en était la preuve. Donc forcément, les moineaux devaient lui apporter des offrandes dans son temple. Lentement, pour que Django et Idriss, les deux autres gardes, ne repèrent pas son manège, il se dirigea vers la cabane de Mordelia. Il contourna le clocher effondré, souleva une poutre, puis des morceaux de planches sculptées. Toujours rien. Comme si Mordelia se fichait qu'on lui apporte à manger.
« Moi, si j'étais un dieu ?» imagina Gulot-Gulot. « Je ne me gênerais pas. Je ferais comme ce gros Bouddha dont parlaient les savants du château. Je demanderais à mes fidèles de venir déposer à mes pieds des tas de choses à manger. Comme ces fruits disparus, dont je ne connaîtrai jamais le goût. Des bananes, des noix de coco, des ananas, des... »
Gulot-Gulot s'arrêta. Tout son corps tremblait. Il vérifia d'un regard affolé que personne ne le regardait, que Django et Idriss étaient assez éloignés, que tous les soldats et les moineaux dormaient. Puis il écarta les dernières planches et le saisit. Il venait de comprendre pourquoi Mordelia était restée si longtemps dans la fumée et le feu devant sa cabane, pourquoi elle en avait protégé l'entrée avec sa lance de fer. Pourquoi elle n'avait pas fui même quand le toit allait lui tomber sur la tête et qu'il avait fallu que Bill la porte, l'emporte, pour qu'elle abandonne enfin son temple aux flammes. Elle protégeait un objet. Celui que personne n'avait jamais vu, celui qu'elle gardait toujours sur elle, celui qu'elle avait préféré cacher plutôt qu'il tombe entre les mains de Jean d'Arc et Hakan. Son troisième livre. Il était là, sous les planches brûlées, à moitié enterrées dans le sable et ainsi protégées des flammes. La couverture en cuir était noircie, les pages jaunies, mais on parvenait tout de même à lire les lettres griffonnées sur les feuilles de papier, du moins à les déchiffrer. Car, pour le reste, Gulot-Gulot ne savait pas lire. Il frotta la couverture, enlevant une première couche de cendre et de suie. Le livre ne comportait aucun nom d'auteur, aucun titre. Gulot-Gulot trouva cela étrange. Il y avait un titre sur chaque livre de la bibliothèque du château, même sur les livres de cuisine d'Honora, les seuls qu'il prenait du plaisir à ouvrir. Plus étrange encore, les lettres étaient remplacées par des dessins. Des dessins que Gulot-Gulot reconnaissait. Il avait vu les mêmes sur les vieux sarcophages, dans les caves du pavillon des savants. Il les détailla, de droite à gauche, sans comprendre ce qu'ils signifiaient. Une lune, un rond avec un point au centre, une femme de profil allongé, un homme debout, un œil, une boîte rectangulaire. 6 dessins sur la couverture et des milliers de lettres sur les pages à l'intérieur. Gulot-Gulot glissa le livre sous sa tunique et réfléchit.
Il devait trouver un ado qui soit capable de comprendre de quoi ce livre parlait. Ce livre était précieux pour Mordelia, au point qu'elle prenne le risque d'être brûlée vive pour que les soldats ne le volent pas. Il fallait donc le montrer à un ado du tipi. Surtout pas à un singe, un savant ou un soldat. Sans savoir pourquoi, il devinait qu'il ne devait pas non plus en parler à Zizo et à Khan, qui aimaient un peu trop ceux du château. Il devait le confier à quelqu'un de confiance. Quelqu'un du tipi, quelqu'un qui savait lire. Ça ne lui laissait pas beaucoup de possibilités.